بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفر عن الإسلام ce soir nous allons pas traiter des ahadith de Riyad al-Salihin. Nous allons plutôt essayer d'expliquer l'importance du mois béni de Ramadan. Cet invité que nous allons accueillir dans à peu près deux semaines, un peu plus de deux semaines. Et nous avons vraiment besoin de nous préparer psychologiquement, physiquement bien sûr, mais surtout spirituellement pour accueillir ce mois béni. Ce mois béni qui est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle « Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum » que ce jeûne nous a été prescrit comme il était prescrit aux autres communautés. Ce qui veut dire que les umam, les milal, les communautés qui sont venues avant nous, ont eu également ce bienfait de la part d'Allah, mais ces communautés l'ont ensuite perdu. Et la seule umma qui a gardé ce Ramadan qu'Allah a légiféré, c'est la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la fin de verset, « Kama kutiba ala alladhina min qablikum » Allah Azza wa Jal rappelle l'objectif, c'est « la'allakum » لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ L'objectif c'est d'obtenir la piété. Ikhwani fillah, les mufassirines, les muhadithines également, ils rappellent que le fait qu'Allah nous ait prescrit des piliers de l'islam, la salah, la zakah, le ramadan et le hajj, des a'mal, ça ce sont des manifestations de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Parce que par le biais de ses actions, le croyant se rapproche d'Allah Rabbul Izzah. On connaît tous le hadith dans lequel notre prophète alayhi salatu wassalam donne l'exemple d'une personne qui prie cinq fois par jour et le compare à celui qui habite près d'un fleuve. Hadith ultra connu. Celui qui habite près d'un fleuve et qui s'y baigne cinq fois par jour, ben après cinq mains, le soir, cette personne n'a plus de saleté, n'a plus de crasse, n'a plus d'odeur corporelle. Elle dit pareil, la personne qui prie cinq fois par jour, le soir, il n'a plus de péché sur son livré de compte. Donc les savants disent que la rahmat d'Allah pour cette umma, c'est de nous avoir prescrit une telle fréquence de salat qui se répète, afin que de salat en salat, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, de prière en prière, on est débarrassé de nos péchés cumulés entre les prières. Et deuxièmement, de salat en salat, on cumule suffisamment de lumière, de nour, de force, de iman, pour retourner dans le dunya et essayer de survivre, et c'est vraiment le terme, survivre pour ne pas sombrer spirituellement dans les fitanes et les péchés. Ainsi donc, il n'y a pas plus de 3 heures en général entre les salats, mis à part Fajr Zohr qui est plus long, mais à partir de Zohr, les salats sont proches de 3 heures ou de 4 heures au maximum. Ainsi le croyant, il se ressource spirituellement et il se nettoie intérieurement. Ça c'est une des hikmats d'Allah concernant la légifération de 5 salats au quotidien. Dans le mois de Ramadan, l'objectif, et justement pour la salat, pour revenir, si on parle des objectifs, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal nous rappelle que « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Le verset très connu que la salat nous éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que la force, qu'on parlait d'une force spirituelle qu'on va obtenir entre chaque salat, c'est une force qui te permet de dire non au péché, de dire non aux tentations de shaitan, de refuser de tomber dans les pièges de shaitan. Alors que la personne qui n'est pas assidue à ces 5 prières aura beaucoup plus de mal à repousser les attaques sataniques. On est d'accord? Alors que la personne qui s'est concentrée 10 minutes à chaque salat, et peut-être 15 ou 20 avec les nawafil qu'il va prier avant et après, ben cette personne-là, il a créé un contact avec Allah. Et quand on ressort d'une rencontre avec Allah, on ressort avec de la lumière. Vous êtes d'accord, oui ou non? Quand une personne vient à la masjid avec sincérité, en accomplissant ses ablutions, et il y vient uniquement pour accomplir la salat, et il se dresse devant Allah Azza wa Jal, il croise ses mains, il y a le Fatiha, il demande Ihdina as-sirata al-mustaqim, il atteste que Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, il fait les louanges d'Allah en disant tu es Rahman Rahim, et on demande à Allah tout ce qu'on a à demander. Ben cette personne-là, il a conversé avec Allah, et dans des programmes précédents, on a eu l'occasion d'expliquer les réponses qu'Allah Azza wa Jal adresse à la personne qui lit la sourate al-Fatiha pour chaque verset. Donc, quand on ressort d'une salat, ben on en ressort avec de la lumière. Et cette lumière-là, tanha anil fahsha'i wal munkar, te permet de résister aux au péché, à tout ce qui est mauvais. Et donc, l'objectif du jeûne, c'est la'allakum tattaqoun, obtenir la piété. Ikhwani fillah, la chose la plus importante, c'est que notre cœur soit habité par la piété. Et cette piété-là, on ne l'obtient pas facilement. La piété, une des définitions les plus fidèles, ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup, mais une des définitions les plus fidèles de la piété, c'est anta ja'ala baynaka wa bayna Allah hijab, que tu arrives à mettre une frontière, une barrière entre toi et la colère d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, les ulama expliquent que la taqwa, elle est composée de deux, on va dire de deux articulateurs. Il y a deux éléments essentiels pour devenir un homme pieux. L'homme pieux, c'est celui qui ne rate pas une occasion d'accomplir une bonne action. Obligatoire, pas obligatoire, quelle que soit l'action. Et que c'est une personne qui va brasser très large dans les bonnes œuvres. Entre la salah, la lecture du Coran, le dhikrullah, l'aumône, le fait de venir en aide aux gens, donner à manger aux gens, essayer de ramener la paix, l'amitié entre des frères, entre, au sein d'un couple, entre des familles, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des a'mal saliha. Donc le muttaqi, c'est celui qui va essayer de réunir tout ça au quotidien le plus souvent possible et surtout sincèrement. Mais il ne sera muttaqi qu'à partir du moment où en même temps la personne arrive à se débarrasser totalement de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah. Que ce soit les choses qui soient haram volontairement ou alors des péchés qui sont haram qu'on accomplit par inadvertance ou même sans s'en rendre compte. La perfection de la foi, c'est de développer la taqwa pour arriver jusqu'au ihsan. Et cette taqwa-là, elle est très difficile à obtenir. Parce que, encore une fois, on le répétera jamais assez, ce n'est pas là un discours défaitiste, ce n'est pas là non plus un discours qui doit nous encourager à aller dans le mauvais sens ou à nous laisser aller, non. C'est un discours réaliste. Que plus les époques avancent, on s'approche du qiyama, on a les petits signes de qiyama qui sont répandus, il est de plus en plus difficile de rester ferme dans sa foi. Il est de plus en plus difficile de dire non au péché parce que les péchés deviennent la norme. On est d'accord? De nos jours, la norme, c'est celui qui est dans tel péché, tel péché, tel péché. Un jeune de 15 ans, de 16 ans qui n'a pas une copine, c'est quelqu'un qui a un blocage. Une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, excusez-moi de le dire aussi cru avec des papas qui sont présents, une jeune fille de 15, 16 ans qui n'a jamais embrassé un garçon, elle se fait chambrer par ses copines. C'est-à-dire que tu es coincé, tu es bloqué, tu as un problème, et ainsi de suite. Le haram est devenu la norme. Ainsi donc, ikhwan fillah, plus on avance à travers les époques, et plus on voit toute la hikmat d'Allah dans la prescription du jeûne. Et on voit comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal a cette vision pour nous et cet amour pour nous qui nous a accordé une action qui nous permet vraiment de faire, on va dire, un écart de 180 degrés ou plus même pour revenir vers lui. Parce que durant les ayyam ou saum, durant les journées de jeûne, premièrement, Allah met une lumière dans ton cœur. On en avait parlé déjà. Cette hidayah qu'Allah met dans le cœur de chaque croyant, ce qui fait que les gens viennent à la masjid, les gens lisent le Coran, les gens font le dhikrullah, les gens font du'a. Tout ça, c'est pas parce qu'ils ont décidé de le faire. C'est pas parce qu'ils t'ont vu faire qu'il va faire. Tout ça, c'est nourun wa huda min Allah. Guidé de la part d'Allah. Et ensuite, dans sa grande sagesse, Allah nous a interdit certaines choses qui font partie de la nature humaine, de la fitra. De la fitra, de ce qu'on appelle l'inéité. Dans la nature humaine, il y a le fait de manger, le fait de boire, et pour celui qui est marié, d'avoir des rapports intimes. Et ça, c'est valable tant pour l'être humain que pour le règne animal. C'est valable pour toutes les créatures, on est d'accord? Ça, c'est de la fitra. Et dans sa grande sagesse, Allah Azza wa Jal nous demande de nous priver de trois choses qui font partie de la fitra. Et trois choses pour lesquelles l'homme a du mal à résister. On va se focaliser plutôt sur l'alimentation. Le fait de manger et de boire, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de naturel, d'instinctif. Et c'est quelque chose qui se répète trois fois par jour. Parfois quatre, certains ils mangent à longueur de journée. Bref, peu importe. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a besoin et il y a plaisir dans le fait de manger et dans le fait de boire. Maintenant, quand Allah Azza wa Jal nous demande de nous abstenir de manger et de boire durant la journée de jeûne, ben, à chaque fois, et là, c'est là que ça devient très intéressant, c'est là qu'on arrive à dépasser le rituel pour comprendre le spirituel et la sagesse d'Allah dans ce qu'il a légiféré. À chaque fois que tu as faim, c'est basique ça, hein, que tu as soif, et tu te dis, non, je ne mange pas, j'ai carême, tu développes ton quota de taqwa. À chaque fois que tu as faim, et à chaque fois que tu as soif, et que des fois tu tends la main vers une boisson ou quelque chose à manger, puis il dit, ah ben non, je somme aujourd'hui, j'ai jeûné. Et la personne s'en abstient, ben il est en train de construire sa taqwa. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé une bonne nouvelle et qu'on peut vraiment appliquer à longueur de journée durant le mois de Ramadan. قال عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله qui complète عوضه الله خيرا منه. Celui qui délaisse taraka, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de meilleur. C'est-à-dire qu'Allah عز وجل autant il aime ce serviteur qui se prosterne 5 fois par jour devant lui, autant Allah عز وجل aime ce serviteur qui se lève pour la prière de la nuit, qui prend son mushaf et qui lit le Coran, autant Allah عز وجل aime le abid, Allah Rabbul Izzah aime voir le serviteur lutter contre ses passions, contre ses pulsions, contre les choses qu'Allah a mis en nous et qu'il n'a pas mis chez les malaïka, par exemple, chez les anges, qu'Allah a mis chez l'être humain dans le but de qui complète, dans le but de l'éprouver, exactement, dans le but de l'éprouver. Est-ce que cet instinct humain, cet instinct qui est parfois peut-être bestial et envahissant, est-ce qu'il arrive à le contrôler et à le canaliser? Si on prend un petit coup le dernier exemple qu'on ne va pas, on va pas développer, le fait de ne pas avoir de rapport charnel durant la journée de Ramadan. Mais ça, ça répond à un principe qui est beaucoup plus humble, qui est beaucoup plus général, le fait de se contrôler dans ses pulsions sexuelles. L'interdiction du zina, de l'adultère. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ainsi, l'homme marié, ou même pas marié, qui se voit séduire par une belle et jeune femme, il va mettre en avant sa foi, sa piété, son amour d'Allah, sa crainte d'Allah, avant ses pulsions. Est-ce là chose facile? Dites-moi la vérité. Non, celui qui dit que c'est facile, je ne le crois pas. C'est un hypocrite. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 70 ans. À tout âge, on a encore, comme les Indiens disent, masti. Il y a toujours l'envie, il y a toujours la bougeotte qui bouge, d'accord? Il y a toujours des pensées. C'est comme ça. Nous sommes des êtres humains. Hakada. Nous sommes des insan, avec nos qualités, mais également nos faiblesses. Et ça fait partie des faiblesses. Ainsi, le fait de dire non haram, quand le haram se présente, d'accord, se présente à notre porte et qu'on arrive à dire non, c'est une grande action, ça. Nous, on a l'impression que la grande action, c'est uniquement celui qui va se lever 2h du matin, qui va faire le tahajjud, qui va, mashallah, donne paquet, comme il dit toute la nuit. C'est une bonne action, c'est un effort, fi sabilillah, pour Allah. Mais celui qui, face à une situation de tentation, il dit non, lillahi, pour Allah, pas pour les gens. Pas parce que Nafundi qui est là, qui me regarde. Ou pas parce que les voisins, ils sont là. Pas parce que madame est là-bas avec poil long téfal et rouleau pâtisserie. Non plus. Parce que je ne veux pas qu'il marque téfal sur mon front. Non plus. C'est pas ça. C'est l'Illahi Azza wa Jal. Dans n'importe quelle circonstance, même un endroit où personne ne me connaît, personne ne me voit. Et j'aime bien donner cet exemple de ce jeune homme qui voyage, qui va faire ses études à Paris, ou ce jeune commerçant qui va en Thaïlande. Il y a beaucoup qui vont en Thaïlande pour le commerce. Je ne suis pas sûr que tout le monde y va pour le commerce. J'ai de gros doutes. Il va dans des pays aussi chauds que ça, où ça bouillonne, d'accord? Où le haram, tu n'as pas besoin de chercher, le haram il vient. Dans ces circonstances où tu es seul, dans un hôtel, où personne ne te connaît, personne ne connaît ta langue, personne ne porte un jugement et personne n'a le temps même de te regarder. Parce que c'est des endroits où on brasse des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à l'heure. Donc ils ne regardent même pas. D'accord? Et dans cet instant, surtout madame est à 7000 km. Donc elle dit tout va bien, elle dit tout va bien chérie. Tout correct là, pas de problème. Et dans ces circonstances où il y a toi et Allah. Toi et Allah. Mais attends, avant de comprendre à toi et Allah, il y a toi et cette demoiselle. Cette tentation, ce péché qui a porté de main. Mais lorsque ton nafs, inna nafs ala ammaratum, bil khayr ou bissou. Le nafs, il te demande de faire le mal. Et Shaitan, quand il voit la tentation du zina, il vient et il fonce, alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Il va faire tout ce qu'il peut pour te faire chuter, tomber vers ce péché. Et dans ce moment-là, si tu arrives à te rappeler qu'Allah est muttali'un alayk, qu'Allah est au-dessus de toi, qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah est alim umidat al sudur, c'est ce qu'il y a de ton cœur, qu'Allah c'est ton khaliq, ton créateur, Allah c'est ton raziq, c'est lui qui te donne le risque. Depuis tu es petit là, c'est Allah qui te nourrit, qui te donne ta subsistance, c'est Allah qui te donne la santé, c'est Allah qui te protège de maladies, c'est Allah qui t'a accordé cette épouse, c'est Allah qui t'a accordé 3 enfants, c'est Allah qui t'a accordé un travail, une situation, un certain confort, même si tu n'es pas immensément riche, mais tu es bien, tu ne manques de rien, tu n'es pas dans une situation déplorable. Développer le muraqabatullah, première flèche spirituelle, développer le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, c'est ce qu'on vient de citer. Deuxièmement, c'est la deuxième partie, al-haya'u min Allah, la honte de désobéir à Allah. Comment puis-je désobéir à celui qui m'a accordé la vie, la foi, la santé et tous les bienfaits qu'on vient de citer. Et troisième réaction spirituelle, ça c'est 3 flèches spirituelles qui rentrent dans notre cœur et qui nous permettent de chasser le diable. Troisième flèche spirituelle, tu penses qu'Allah Azza wa Jal nous a dit clairement que ma yalfudhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, qu'il n'y a pas une parole que l'être humain prononce sans qu'il n'y ait, le sens du verset, des muraqib, des anges qui écrivent, qui scrutent et qui donc, ils vont graver les actions, que ce soit les paroles, les gestes, les actions, et que tu réalises que si je pose ma main sur cette fille et que je vais faire ce que je n'ai pas à faire, les anges sont là, ils te regardent et ils écrivent. Et à ce moment précis, ton iman quitte ton corps. Tout ça, c'est la réaction de foi. Mais ikhwani fillah, cette réaction de foi, avant de la faire émerger du cœur, pour qu'elle devienne un bouclier autour de nous et qu'on lutte contre ce zina qui est la plus grande faiblesse de l'homme. La plus grande faiblesse de l'homme, c'est l'adultère. Pour que ce iman, il puisse être le rempart entre nous et ce haram, il faut qu'on ait un potentiel taqwa suffisamment fort qui nous permet de développer cette résistance. Mais si notre piété, elle est faible, c'est comme le système immunitaire. Si quelqu'un est faible, il a peu de globules blancs et pas beaucoup de vitamines, ainsi de suite, n'importe quel petit microbe, bactérie, virus, tombe malade. Mais quelqu'un qui a un système immunitaire, machallah, renforcé, il mange des choses saines et ainsi de suite, bref, tout ce que vous savez, ben, il arrive à résister. C'est une image, hein, pour qu'on réalise que la taqwa, c'est ce qui nous donne la force de résister au haram. Et sans résistance au haram, on n'atteint pas la taqwa. Encore un exemple pour qu'on réalise la portée de ce refus du haram, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous cite qu'il y aura 7 catégories de personnes qui le jour de Qiyama seront sous l'ombre du trône d'Allah. Combien de fois on a cité ce hadith? Au moins 15 fois, oui ou non?
Plus.
Pourquoi on cite tout le temps ce hadith? Parce que ça c'est mon rêve, ça c'est mon objectif, ça c'est mon modèle, je vis pour ça. Je vis pour ça. Et je vais mourir comme ça. Et rien d'autre ne m'intéresse de ce dunya que de développer les qualités qui me permettront, le jour des comptes, entendre ma voix qui est appelée par mon Seigneur pour que je vienne m'abriter sous l'ombre de son trône. Yom ala dhilla illa illa dhillu. Quand il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est son ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah. Et parmi ces 7 catégories, Allah Azza wa Jalla a cité, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, et cela a été inspiré d'Allah, Rajulun, un homme qui reçoit des avances d'une femme qui est jeune et qui est belle, mais qui refuse, faqala inni akhaf Allah. Rajulun, da'athum ra'atun, da'athum mansibin wa jamal. Mansib wa jamal, les deux, c'est pas une femme, excusez-moi, c'est pas une femme de la rue, c'est pas une prostituée. Mdhu mansib, c'est quelqu'un qui a un rang dans la société, c'est quelqu'un de noble, c'est quelqu'un de convoité. Wa jamal, c'est quelqu'un qui est belle, qui est attirante. Et que l'homme dit, faqala inni akhafullah. Il n'a pas dit que non, ana mutazawwijun. Non. Il n'a pas dit non, hadha shahru ramadan. Non. Il n'a pas dit non, ahfadhu al-qur'ana. Du tout, inni akhafullah. J'ai la crainte d'Allah. Et pour ce refus-là, Allah lui accorde une place selon le sultan. Allahumma ja'alna min alladhina la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Allahumma ja'alna mimman tudhilluhum fi yawm al-qiyamah yawm la dhilla illa dhillu. Qu'Allah nous accorde ce rang, un rang parmi les 7 catégories. Ne demandons pas être exposé à ce péché poitrinaire. Non. Qu'Allah nous accorde les qualités pour faire partie d'une de ces 7 catégories. Peut-être développer d'autres bonnes actions, parce que ça c'est très dur. Et peu de gens arrivent à lutter contre cela. Alors, pour revenir à notre histoire de taqwa et de Ramadan, le fait, chaque fois que tu as faim, en général, on a faim à partir de quelle heure? Elias. Moi, déjà, franchement, depuis Fajr, j'ai faim. Moi, j'ai faim après Fajr, j'ai faim à 8 heures, j'ai faim toute la journée. Mais ça, c'est Alhamdulillah. Et j'ai expliqué ça aux élèves à la madrasa dans un langage d'enfant. Maintenant, on remonte un peu le niveau et je vous le dis à vous. Vous savez, c'est un fursa, ça. C'est une opportunité qui ne se présente pas en dehors de la journée de jeûne. Faire un sacrifice pour Allah. De nos jours, plus pire. Nous ne faisons plus de sacrifice pour Allah. Regardez bien, notre relation avec Allah, elle est basée sur les bonnes œuvres ou sur la patience. Les bonnes œuvres, on a compris, je peux vous expliquer. La patience, quand on est malade, quand il y a un problème, on sait que ça vient d'Allah, on fait tahammul, on fait sabr, on fait preuve de patience, on s'en remet à lui. Mais faire un sacrifice, sacrifier quelque chose, souffrir pour Allah, qui c'est qui souffre pour Allah de nos jours? Il n'y a plus personne. On n'est pas à une époque où on est frappé dans la rue, on est insulté, sale arabe, sale musulman. Allah protège. Peut-être que ce jour viendra, mais Allah nous protège, protège nos enfants. Il y a un contexte très difficile de fitna, certes, mais on n'est pas là. On n'est pas à ce stade où on est insulté dans la rue, on est humilié, frappé. On n'est pas comme l'époque des sahaba qui étaient agressés, qui étaient torturés, qui ont kidnappé les membres de la famille et on les comme Soumaïa qui a été écartelé. Radiallahu anhu Bilal ibn Rabah, quelle souffrance a-t-il connu? Et ainsi de suite. Et on n'a pas besoin de rappeler les souffrances des sahaba. Nous, on ne fait plus rien, nous. On ne se sacrifie plus pour Allah. Mais tu voyez, ce petit sacrifice-là, considérons-le comme un cadeau. Une petite souffrance pour Allah, vous dites que t'es subhanallah. Si Allah m'accorde jannat pour ce petit choya, un choya c'est quelque chose de petit, de minuscule, ben je suis un grand gagnant. Alors, c'est comme si Allah il te prend un centime d'euro et il t'accorde des montagnes d'or. C'est énorme ça. Et ainsi donc, l'intelligence du jeûneur, c'est quoi? J'expliquais ça aux enfants samedi à la madrasa. L'éveil spirituel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil spirituel? C'est de comprendre ce que tu fais. Comprendre tes a'mal. Ne le fais pas comme un rituel. Même si tu le fais comme un rituel, Allah est karim, il te récompense. Mais si tu donnes un sens, ben tu profites de ce sens et tu vas acquérir plus de force. Et tu vas ressentir le halawatul iman, la douceur de la foi. Quel sens donner à cette faim et à cette soif quand à 8 heures, on sent l'estomac qui se tord là et que ça fait mal et que parfois tu as presque envie de te courber tellement la faim. Tu te dis que ya Allah, al-jou'u lillahi, wal-atshu lillahi, wal-ta'bu lillahi, al-suda'u lillahi. Quand ta tête fait mal parce que tu as oublié de boire de l'iprane ce matin, suhur, ce que tu n'as pas trouvé, c'était trop tard, et que la tête fait mal, tu te dis que ya Allah, cette douleur-là, c'est pour toi ça. Ça, c'est mon sacrifice pour toi. Quand tu as faim, tu te dis, ah, Allah, ça, ce sacrifice-là, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais je le fais pour toi. Et je le respecte pour toi. Quand tu as soif, tu sors du travail. Il y en a qui, mashallah, ils travaillent sur le chantier. Il y en a qui font un travail physique très difficile. J'avais un jeune homme qui assistait au Daj de Tafsir. Ça remonte à 2004, 2005. Il me disait que il essayait de jeûner le lundi et le jeudi, régulièrement, parce que il avait écouté les fadraïls. Mais il m'a dit que j'ai du mal avec mon travail. Je lui ai dit, mais tu fais quoi comme travail? Il dit, mais je travaille sur chantier. Il bat de béton, il bat de ciment. Qui ça finit pour ôter un paquet de ciment, 25 kilos. Je dis 25 kilos, je ne sais même pas, ça fait 25 kilos. Pour vous dire comment je ne m'y connais pas, hein. Ça fait 25 kilos. Ça, c'est du travail. Chaque travail hein, est fatigant. Mais celui qui travaille sous le soleil, d'accord, il y a 8 ans, on n'était pas encore dans le cycle d'hiver. En 2028 ans, Allah, le temps passe tellement vite, ça fait pas 8 ans, ça fait plus. En 2004 ou 2005, on était encore dans le cycle d'été, ou fin d'été, Ramadan, quand il fait 34, 35, avec l'humidité, à midi, quelqu'un qui travaille sur le chantier, il me dit que, il parle pas de Ramadan, il me dit, il a du mal à rester ferme de le somme de lundi et jeudi. Je dis, subhanallah, il y a des gens comme ça, ce sont des amals silencieux. Il n'y a pas d'ostentation dedans. S'il est venu me dire, c'est pour me demander conseil. Est-ce qu'il y a un mal si des fois il flanche, je dis subhanallah, Allah connaît ta situation. Wa shattani, différence entre celui qui travaille comme ça, celui qui est à sa maison, les deux ont des récompenses, mais les récompenses sont relatives, sont en rapport avec le mujahada, le sacrifice qu'on va faire. Ainsi donc, ce petit sacrifice, cette faim et cette soif, fais-le pour Allah. Et je le dis bien, à chaque fois qu'on le ressent, dit ya Allah, ça c'est pour toi. À un moment donné, vous allez voir que on va ressentir ce plaisir, entre guillemets, qu'il y a à se sacrifier pour Allah. Ça, c'est un point à acquérir. Deuxième point qu'on doit acquérir, qui doit devenir donc un acquis spirituel, c'est à chaque fois qu'on a On est exposé au péché. Bon, là, on ne suit pas le tertib, mais ce n'est pas grave. Là, c'était un point qui était beaucoup plus loin. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait expliqué qu'il y a des gens qui, de leur journée de jeûne, n'obtiendront rien, illa at-ta'b wa an-nasab, si ce n'est la fatigue. La fatigue, on pourrait résumer comme ça. La fatigue. Et ça, c'est dramatique, ça. Une personne qui jeûne ou qui passe la nuit en prière et qui n'obtient aucune récompense, si ce n'est la fatigue et le manque de sommeil. Il y en a même expliqué qu'est-ce qui fait que une personne peut passer une journée de ibadah comme ça sans obtenir les récompenses, c'est que la personne ne s'est pas éloignée des péchés en même temps. Ainsi, quand on jeûne, ça c'est quelque chose qu'on doit acquérir, on doit avoir le somme du ventre bien sûr, mais le somme du ayn, des yeux, le somme des oreilles, c'est-à-dire ne regarde pas ce qui est haram. Raddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Est-ce que ça c'est quelque chose de facile? Dis-moi, c'est facile? Pas facile, ça. Il y a une sœur qui écrivait sur quoi? Oui, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hier, sur Facebook. Elle écrivait, et je sais qu'elle écoute les audios, elle se reconnaîtra, elle dit bravo à cet homme qui, à notre époque, est entouré de belles femmes, mais qui ne regarde que son épouse. Bravo. C'est une situation très complexe à notre époque. Contrôler son regard, ça c'est min sifat al-muttaqin. Allahumma ja'alna minhum. Ça fait partie des sima, des qualités des pieux, des élus d'Allah Azza wa Jal. Je vous avais dit ça une fois, il y a longtemps. On avait reçu deux personnes de Makkah. Ça remonte. Pas exactement de Makkah, de village près de Makkah, mais qui se rattachent à la ville de Makkah. C'est venu 2 jours à la réunion, 3 jours. Et ils voulaient rouler un peu en ville. Moi j'hésitais, parce que c'était samedi après-midi. Ils voulaient marcher, rouler un petit peu. On a roulé un peu en ville. Et j'ai senti qu'ils étaient un petit peu choqués, parce que c'est des gens qui n'avaient pas voyagé apparemment, pas trop voyagé. Et en remontant dans la voiture, en roulant, il dit Ibrahim, dans votre pays, celui qui se contrôle, celui qui arrive à baisser son regard, Hada wali min awliya illa. Ça c'est un ami d'Allah. Ça c'est un muttaqi, ça. Celui qui, uniquement, arrive à contrôler son regard dans cette contrée-là, dans votre ville, dans votre pays, ça c'est min awliya illa. Ça, il fait partie des amis d'Allah. C'est un élu d'Allah. Ça nécessite un niveau de self-control spirituel. Ainsi donc, saum, le jeûne, c'est avec les yeux. Le jeûne, c'est avec les oreilles. On n'écoute pas ce qu'on n'a pas écouté. Le saum, c'est avec al-lisan aussi. On connaît l'histoire de ces femmes qui s'étaient fait vomir, il y avait de la viande. Prophète a dit, avait dit ces dames de vomir, les prophètes avaient su, Allah avait mis dans son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes sont en état de jeûne, elles n'ont rien mangé, c'est riba. Si une personne est en état de jeûne, mais quand tu n'as parlé, parlez sur le monde. Riba, wobotan, unamima, crée la zizanie, un tel a dit ça, un tel a fait ça. Vous êtes là à la réunion, vous parlez des gens qui sont dans le village là-bas, au Komo. C'est à combien de kilomètres ça? 3000? 2000? Tu prends le péché, ma'koul. Lui, il est tranquille là-bas. Juste, tu as entendu que oui, il a divorcé, il a fait ci, il a fait ça. Tu dis, voilà, tu vas raconter. Il paraît que, j'ai entendu que lui, la madame était comme ça, le monsieur l'a tapé, ou le monsieur était avec un autre et tout. Malak shogul, ça ne te concerne pas. Et on a vu un hadith il y a quelques mois, min husni islam il mar'i, tarkuhu ma la, yani, ça ne te concerne pas. Uskut, c'est pas ton problème. Tais-toi. Pourquoi tu as besoin de parler sur les gens? Tu n'as pas assez de problèmes. Tu veux qu'on crée des problèmes. Tu n'as pas assez de soucis. Tu n'as pas assez de péchés à te faire pardonner. Tu as besoin de ramasser les péchés des gens. Parce que ça, c'est le retour du riba du bohtan. Tu vas gratter, tu vas prendre le péché le jour du qiyam. Ainsi, le jeûneur, c'est celui qui ne mange pas, celui qui contrôle son regard, qui contrôle ce qu'il écoute, qui contrôle ses paroles. Il n'y a rien de mieux que lorsqu'on est en état de jeûne, c'est de ne pas parler. Le moins qu'on parle, c'est mieux. Et si on ouvre la bouche, c'est pour dhikrullah ou pour quelque chose qui est profitable. Vous allez voir comment, spirituellement, c'est quelque chose d'enrichissant. On a besoin de parler de cette lumière de iman qu'on trouve quand tu contrôles ton regard pour Allah, quand tu contrôles ce que tu écoutes pour Allah, tes paroles pour Allah, tu te tais pour Allah, que ton cœur reste concentré dans le dhikrullah, c'est énorme. Tu greffes tout ça au somme en lui-même. et tu obtiens une joie de dévotion et de taqwa qui est exceptionnelle. Ainsi, on comprend mieux le sens de la haine, la kum tattaqoun. Lorsque tu as faim, tu te dis, ça c'est pour Allah. Lorsque le péché se présente à toi, le péché passe devant toi, tu baisses ton regard et ainsi de suite. Pour Allah, tu es en train de. C'est comme si que on est en train de construire avec des Legos des pièces de taqwa. Taqwa, taqwa. Parce qu'à chaque fois que tu dis non à ton nafs, tu renforces ton iman, tu affaiblis ton nafs et tu deviens plus muttaqi. 1% muttaqi, 2%, 3%, et ainsi de suite. Et donc, ce mausam, ce mois-là, c'est vraiment le mois des pieux, c'est vraiment le mois pour former la piété, pour cumuler cette piété et l'emmener avec nous durant toute l'année. On va s'arrêter à l'inchallah. Permettez-moi juste 4 conseils avant qu'on termine. Je ne sais pas si on a encore l'occasion de parler du jeûne avant le Ramadan. Peut-être quelques pièges, on va dire, à éviter. Faisons en sorte de ne pas perdre notre temps. Encore à La Réunion, il n'y a pas cette culture-là. Hein. Dans certains pays arabes, il y a 2 fléaux. Ça, le professeur nous racontait. Il disait que quand arrive le mois de Ramadan, ils ont les moussalsalat. Parfois, vous tapez sur Google, vous cherchez des images Ramadan pour faire des fonds d'écran. Vous trouvez Moussalsalat, Ramadan 2017, 2016, des nouvelles séries. Comme il y en a qui regardent Game of Thrones ou des trucs comme ça. Séries spéciales Ramadan, a'oudhubillah. C'est-à-dire que des gens qui vont rester devant la télé 3 ou 4 heures de temps toute la nuit. Khasara. Ça, c'est du temps perdu. Donc, évitons tout ce qui peut nous faire perdre notre temps. Et dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ils ont dans les maqras. Ils vont dans des cafés. Et là, ils restent, ils s'assoient, je sais pas, des heures et des heures, à parler, discuter. Où sont les signes de taqwa, de construction de la piété? C'est du temps perdu. Vous passez les nuits à rester entre camarades et parler, ainsi de suite. Qu'Allah nous protège de cela, que nous arrivons à profiter de nos matinées et de nous reposer le soir, une partie de la nuit, pour nous réveiller ensuite pour faire le ibadah. Donc, tachri le waqt, qu'on ne perde pas son temps. Également, ce conseil pour nos épouses. Ce qui serait injuste, c'est que 30 minutes avant la rupture du jeûne, madame est dans la cuisine. Le moment où les doigts sont acceptés, oui ou non? Et elle est en train de faire les gâteaux, les tout ça. Nous, on est contents, les messieurs ont envie de manger, mais qu'elle fasse ses doigts. Au moment de suhur, ou akhir thulthulayl, dernier tiers de la nuit, où les doigts sont acceptés, madame est en train de cuisiner pour mettre le repas à table. Tout ça, ce sont des bonnes actions pour elle. Mais après, il faut un juste milieu. Qu'elle prépare quelque chose, mais en même temps, qu'elle puisse être sur son musalla, qu'elle puisse demander doua pour son couple, pour ses enfants, pour nous-mêmes, pour la famille. D'accord? Donc, pour ceux qui sont mariés, on essaie de réguler un peu ça. C'est, même s'il faut qu'on fait cuire un peu, nous aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait du riz ou fait frire des trucs ou tenir une cuillère, une spatule dans votre main. Moi, je vous dis fièrement, oui, je l'ai fait. Pas beaucoup, mais je sais faire. Mais essayez de soulager un peu madame, parce que la murabbiya, celle qui éduque nos enfants, c'est pas nous, hein. Nous, on encadre et on fait avancer comme des bergers. Celle qui donne l'amour plus, celle qui encadre, celle qui est proche des enfants, c'est la maman. Et si la maman devient pieuse, nos enfants deviendront. Ça, c'est sûr et certain. Bi'idhnillahi wa fadli. La maman, elle a la crainte d'Allah, l'amour d'Allah dans son cœur, elle le transmettra à ses enfants. Les enfants, c'est comme des éponges, hein. Ils absorbent ce qu'il y a dans le cœur de là. Maman. Mettez une maman qui regarde la télé depuis le matin jusqu'au soir et qui parle ensuite 4 temps d'un GSM avec ses copines et ainsi de suite, qui ne prie pas. Est-ce qu'elle va éduquer? Qu'est-ce qu'elle va inculquer à ses enfants? Ça, c'est pas possible. Donc, qu'on donne du temps à notre épouse à la maison pour qu'elle puisse se consacrer au ibadah. Deuxième erreur, pas de retard dans le démarrage. Que Ramadan, premier, deuxième, troisième jeu, il commence. Non, là, il chauffe, là. Félicitement, là, tu ne prends le rythme. Non, échauffe-toi avant. Quand tu vas jouer un match ou alors un athlète aux Jeux Olympiques, c'est pas quand l'arbitre siffle, dit attends, là on va s'échauffer, on va. L'échauffement, l'entraînement, c'est avant. Bref, comprenons que dès que le Ramadan commence, Ru'yat al-Hilal, on doit démarrer tout de suite. C'est pour ça que le Sha'ban, c'est un mois propice pour se rapprocher d'Allah. Le jeûne du Sha'ban, ça nous apporte beaucoup spirituellement, qu'Allah donne tawfiq de les compléter jusqu'à la fin de ce mois. Et troisième chose, attention au sentiment du devoir accompli. Ne jamais se dire que ce que je fais, c'est déjà parfait. Non, essayez d'avancer, de progresser. Il faut qu'on ait une marge de progression régulière. Je vais un peu plus vite, on a été un peu long ce soir, vous m'excuserez. Troisième erreur, le israf, gaspillage. Pas de gaspillage. de la nourriture. Si vous êtes à 4 ou à 5, même si les enfants, ils ont, machallah, bon appétit, ne cuisinez pas pour les 10. Et n'écoutez pas votre ventre quand vous avez faim. C'est le plus grand menteur. Il n'y a rien de pire que de faire ses courses quand vous avez faim, là, il est 11h30. Vous allez acheter tellement de choses. En finalité, on dit que comment est-ce que j'ai pu penser que ce soir, j'allais manger 12 en même temps. Donc, pas de israf de la nourriture. Ici, encore la Réunion, on est modéré, mais dans certains pays, Allah musta'an. Le gaspillage alimentaire, la hawla, wa la quwwata illa billah. Quand on voit dans des hôtels, les gens, ils vont malheureusement, ils vont umra et tout. On voit dans des hôtels où il y a ce qu'on appelle le système de buffet. Ça m'écœure, je ne veux même pas regarder. Je mets des petits coins pour manger. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Vous allez à Makka ou Madina pour le Hajj Umra, c'est pas le charme qui veut ça, hein. C'est pas le peuple qui veut ça, c'est l'erreur des gens. Il voit, il y a plein de manger pour Iftar, il remplit. Il va manger un tiers et il laisse le reste, tout va à la poubelle. Il y aura des comptes à rendre là-dessus. Inna al-mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Qu'Allah nous protège. Il y avait un professeur, il était très sévère à lui, on le détestait. C'est le professeur de Faraïd, de l'héritage. Un an, on a souffert avec lui. Et bon, il avait cette réputation d'avoir des paroles très dures. C'est pour ça qu'il n'était pas prêt. Il disait que Ba'dul ikhwan ma yantadhiruna illa Ramadan hatta yakunu min ikhwan ash-shayatin. Ista'jabna. Il dit, il y a des gens ici, enfin il y a des gens qui attendent le mois de Ramadan pour devenir les frères du diable. Il y a des gens qui gaspillent tellement de nourriture durant le mois de Ramadan, mais ils deviennent les frères du diable dans le mois béni. Ça c'est haram, ça israf. Et apprenons nos enfants aussi à ne pas gaspiller. Commence à manger quelque chose, pas qu'il a vu un autre truc, il laisse. Non. Tu as commencé, tu finis. C'est comme ça. Il y a une époque où nous, on n'avait pas autant à manger. Les rappeler l'histoire, ainsi de suite. Chacun a connu des périodes difficiles. Donc, le gaspillage. Et dernier point, le respect de la petite A, masjid, et respect du voisinage. C'est important. Respect de la masjid avant tout. Le spectacle qu'on a eu avant Maghreb, c'était juste impossible. C'était pas possible. Moi, je faisais imam. Je pouvais pas repartir. J'ai essayé une fois. Les enfants ne m'écoutaient pas. Ce sont pas nos élèves. Donc, on n'a pas d'emprise sur eux. Mais si les parents sont là, ou si vous connaissez qui sont les parents de ces enfants, ils faisaient MMA. Là, à la cause. Vous avez déjà vu MMA? Les combats qui sont interdits en France, là. Ils étaient à 3. Ils se prenaient, ils se jetaient, ils luttaient, ils faisaient des sauts comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça dans Madrasa non plus. J'ai les enfants. C'est la masjid là, c'est ma adhan dans un instant. Il faut se calmer, regarde, continue. Ils ne me connaissent pas, donc il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Et ça faisait du bruit, ainsi de suite. Donc, si on connaît, ça c'est une parenthèse, on connaît qui sont les parents, il faut dire à ses parents, si vos enfants viennent, venez avec eux, gardez-les auprès de vous, il ne faut pas. Ça c'est un grand taklif, on ne peut pas faire doua. Tellement il y avait du bruit. Donc ça c'est namoudaj, un exemple parmi tant d'autres. Mais nous aussi, n'oublie pas qu'on a des voisins à droite, à gauche. Maintenant qu'on parle à voix haute, il y a des fois où vous êtes à 5. Vous êtes un groupe de 5. Camarades, mohabba, il y a un autre groupe de 5, un autre groupe. Ben, quand chacun parle, on ne s'entend plus. Et pour s'entendre, non, on parle plus fort. Ça, c'est normal, ça. Mais nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est dans la conversation, on a envie d'échanger. Mais là, peut-être qu'ailleurs, il y a des gens qui sont importunés. Et après, non seulement Ida ou Ijar, donner des difficultés aux voisins, ça, c'est un péché. Mais en plus, en termes d'image, ils vont retenir quoi? Voilà la mosquée. Voilà les musulmans, c'est ça. Ils font que du bruit. Et ils nous empêchent de vivre, et ainsi de suite. Et ça, c'est très mauvais. On essaie d'éduquer les enfants de ce sens, pour que, même s'il n'y a pas de mauvaise intention de leur part, mais tenir compte du regard des autres, et ne pas donner une mauvaise image, ou ne pas importuner volontairement, ou même involontairement. Donc, respect de la masjid, et respect des voisins. Après, dans chaque quartier, il y a ses spécificités. Hein. Au centre-ville de Saint-Denis, et ça, je vais faire le rappel en ville aussi, l'horreur, c'est quoi? Ça, c'est vraiment... Et des fois, il y en a qui font ça ici, et quand des gens font ça avec moi, je les regarde même pas. Des personnes qui roulent, qui s'arrêtent, « Eh, oui, ça, comment il est, ça va ?»« Et tu sais, on a où, hein, Masla, telle chose ?»« Il y a 12 voitures derrière toi. »« Et toi, tu ralentis ?»« Tu veux parler avec lui ?»« Moi, je tourne le dos. »« Je préfère vexer une personne que de donner une mauvaise image de notre communauté à 12 personnes. Les gens, ils sortent du travail, ils sont fatigués, ils doivent déposer leurs enfants à l'école, ils doivent aller à l'hôpital, on ne sait pas, les Ashra al-Nas. Toi, tu es en mode zen, tu es en mode cool, tu es tranquille, on a envie de casser la blague. Garde-toi, tu t'arrêtes, tu viens parler, on te donne du temps. Mais on ne s'arrête pas pour discuter avec quelqu'un, on bloque la circulation, ou alors des pauses. C'est comme s'ils sont un gilot. Il s'arrête, il tient des bagages, les gens descendent. Mais on est dans la rue Maréchal Leclerc. Rue Jules-Lebel, c'est des rues. C'est des artères principales. Et l'image que nous donnons, c'est catastrophique. Donc, dans chaque quartier, il y a ses spécificités. Notre but, c'est quoi? C'est de nous ramener vers une pratique qui est entre nous et Allah et qui ne cause préjudice à personne. On va t'offrir la billah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne à tous la possibilité de vivre Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, et de vivre un Ramadan fi ta'a, de l'obéissance, en bonne santé. Que personne ne soit malade, inshallah, et que nous puissions jeûner nos 29 ou nos 30 jours, nos tahajjud tous les jours, tous les soirs, sans rater un jour, nos du'as 15 minutes au moment, au dernier tiers de la nuit, 15 minutes à la rupture du jeûne, concentration, tarawih. Et on ne rate pas un rakat. Qu'Allah nous donne la fermeté et nous permet de passer un Ramadan fi ta'a. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Fik barakallah.